VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 18h30 universel. Nous sommes jeudi 29 mars 2018 au sommaire. Attaque meurtrière dans le centre du Mali, dans une localité que le Premier ministre Soumaïlou Boubey-Maïga a visitée la semaine dernière. Violence également au Nigeria où une attaque menée par des voleurs de bétail a fait 15 morts. La Russie annonce l'expulsion de 60 diplomates américains et la fermeture du consulat de Saint-Pétersbourg. Sommet historique entre les deux Corées le 27 avril le prochain. Et en partie magazine, Emmanuel Jultap nous fait le point sur la crise dans les régions anglophones du Cameroun.
Nous sommes passés de la révolte civile à la résistance armée classique et asymétrique.
Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. Au moins deux personnes ont été tuées la nuit dernière dans le centre du Mali. L'attaque menée par des hommes armés a eu lieu à Bandiagara, que le Premier ministre Soumaïlou Boubey-Maïga a pourtant visité la semaine dernière. On fait le point avec Mamoudou Bokoum à Mopti.
À Bandiagara, hier soir, aux alentours de 21h, cinq hommes armés ont fait irruption sur l'hôtel au niveau du rond-point. Il s'agit bien de l'hôtel La Falaise. Apparemment, c'est une attaque ciblée contre cet hôtel. Les cinq hommes ont ouvert le feu d'abord sur un garde qui était pointé à la porte et qui a été d'ailleurs blessé et finalement qui a succombé à sa blessure. Après, il y a eu riposte des gardes qui étaient au niveau de la BMS, une banque contiguë à l'hôtel. Il y a eu échange de tirs pendant quelques minutes. Un renfort a été appelé au niveau de Bandiagara où il y avait quelques éléments de la garde et de la gendarmerie qui ont pu quand même riposter un peu et ont dispersé les assaillants qui sont fondus aujourd'hui dans la nature. Donc le bilan est le suivant. Deux morts, un garde et un assaillant et trois blessés. Parmi les trois blessés, il y a deux employés de l'hôtel. Pour le moment, l'attaque n'a pas été revendiquée.
Mamoudou Bokoum, le correspondant de VOA Afrique à Mopti, dans le centre du Mali. Au Nigeria, 15 éleveurs ont été tués dans une attaque dans l'état de Zamfara, dans le nord-est du pays. Selon les premières enquêtes, il s'agit d'une attaque criminelle attribuée à des voleurs de bétail. La région est en proie à des affrontements fréquents entre agriculteurs et éleveurs. Le point avec Blanche Sanou.
Des hommes armés sont arrivés à moto dans le village de Bawondaji et ont abattu 15 personnes avant de s'enfuir. L'annonce a été faite par le porte-parole de la police de Zamfara, Mohamed Tchéou, qui a attribué l'attaque à des voleurs de bétail. Un responsable des autorités locales, Gado Anka, a confirmé le bilan qu'ils sont revenus 2 heures plus tard et ont attaqué les personnes en deuil lors des funérailles des victimes dans le cimetière, tuant 3 autres personnes et en blessant plusieurs autres. En 2016, l'armée a été déployée dans l'état de Zamfara pour tenter de régler les affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Ces violences sont récurrentes. Elles ont amené des villageois à constituer des milices d'autodéfense pour lutter contre les bandes armées dans les zones rurales.
La MONUSCO, la mission onusienne en République démocratique du Congo, affirme que plus de 300 enfants ont été directement affectés par des violences dans le pays sur une période de 3 semaines. Ces violences ont cours dans le Kasaï et dans l'Ituri, et également dans les deux provinces de Kivu, représentent une augmentation de 57% en comparaison au mois de février, note la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO. L'augmentation s'explique notamment par l'explosion des violences meurtrières entre les agriculteurs Lendu et les éleveurs Emma dans la province de Litou, selon la MONUSCO. En Afrique du Sud, des victimes de l'épidémie de listériose ont déposé une plainte contre le groupe agroalimentaire accusé d'avoir fabriqué le saucisse à l'origine de la contamination. Le pays subit depuis janvier 2017 la pire contagion de listériose jamais recensée au monde, qui a déjà provoqué la mort d'au moins 183 personnes. Un employé somalien du Comité international de la Croix-Rouge a été tué par un engin qui a explosé dans sa voiture à Mogadiscio, la capitale. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi l'organisation. Marié et père de 2 jeunes filles, il travaillait pour le CICR depuis 5 mois. L'ONG espagnole Proactiva Open Arms dénonce une campagne pour éliminer les témoins des naufrages en embarcation transportant des migrants entre la Libye et l'Italie. Proactiva Open Arms, dont l'Italie a immobilisé un bateau de sauvetage, se dit la nouvelle cible d'une campagne institutionnelle, politique et médiatique. Les autorités judiciaires italiennes accusent l'ONG d'aide à l'immigration clandestine pour avoir refusé mi-mars de confier aux gardes-côtes libyens plus de 200 migrants qu'elle avait secourus au large de la Libye. Les autorités marocaines annoncent le démantèlement d'une cellule terroriste de 8 membres à Tanger, au nord, et Oued Zem, dans le centre du Maroc. Les suspects, âgés entre 21 et 31 ans, ont tous été arrêtés. Sans surprise, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a été réélu pour un second mandat avec un score de plus de 90%. Le scrutin s'est déroulé sur 3 jours sans grand suspense. Nathalie Barche.
Malgré les menaces de sanctions sur les abstentionnistes, seuls 25 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes sur près de 60 millions d'inscrits. Abdel Fattah al-Sissi l'a emporté haut la main avec 92% des voix après avoir obtenu 97% en 2014. Selon les résultats partiels, à Alexandrie, le président sortant a remporté 1,2 million de voix contre 40 000 pour son adversaire, avec un taux de participation de 37%. Le seul autre candidat, Moussa Mostafa Moussa, homme d'affaires partisan du chef de l'État, a remporté 3% des voix, selon les premières estimations d'Al-Aram. Chef du parti Al-Ghad, il s'était lancé dans la course. Sa candidature a permis d'éviter au président Sissi de faire cavalier seul. D'autres candidats potentiels ont été emprisonnés ou découragés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors du continent africain à présent, la Russie va expulser 60 diplomates américains et fermer le consulat des États-Unis à Saint-Pétersbourg en réponse aux mesures prises par Washington contre Moscou dans le cadre de l'affaire Skripal. Les représailles de Moscou incluent l'expulsion du même nombre de diplomates et le retrait de l'accréditation du consulat général des États-Unis à Saint-Pétersbourg, a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Le président américain Donald Trump connaît un léger regain de popularité selon 2 sondages récents, une remontée qui pourrait être dû à la bonne santé de l'économie américaine, mais il reste en dessous des cotes historiques de ses prédécesseurs. Donald Trump est passé de 35 à 42% d'opinion favorable entre février et mars, selon le sondage mensuel réalisé par CNN et une autre étude APNORC, Center for Public Affairs Research. Ces enquêtes ont respectivement 3,7 et 4,2 points de marge d'erreur. Rencontre historique en vue, les dirigeants des deux Corées se rencontreront le 27 avril pour un sommet rarissime, avant un autre face-à-face tout aussi historique avec le président Donald Trump. Ce sera au mois de mai. On fait le point avec Morgane Guiriec.
Ce sommet est le troisième du genre après les rencontres de 2000 et 2007 à Pyongyang. Cette fois-ci, la réunion se tiendra à la Maison de la Paix de Panmunjom, village dans la zone démilitarisée où a été signé l'armistice entre les deux Corées. Kim Jong-un sera le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre. Cette semaine, il a effectué son premier voyage à l'étranger. Il s'est rendu en Chine pour rencontrer le président Xi Jinping. Un autre sommet historique entre le leader nord-coréen et le président américain doit être organisé au mois de mai. Les Jeux olympiques d'hiver, le mois dernier, ont été le catalyseur de ce rapide processus de rapprochement après 2 ans d'escalade. D'ailleurs, Thomas Bach, président du Comité olympique international, est arrivé ce matin en Corée du Nord pour une visite de 3 jours.
Et nous reviendrons sur la Corée du Nord dans notre partie magazine. Les ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy sont loin de se terminer. L'ancien président français, son avocat et l'ex-magistrat Gilbert Azibert ont été renvoyés devant la justice dans l'affaire des écoutes téléphoniques. Selon le journal Le Monde, tous les trois sont renvoyés pour corruption active et trafic d'influence. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est accusé de trafic d'influence la semaine dernière. Il a été inculpé pour corruption passive et financement illégal de campagne électorale avec notamment des fonds libyens. Israël avertit les Nations Unies de son droit à se défendre à la veille d'un grand mouvement de protestation organisé par les Palestiniens dans la bande de Gaza, le long de la frontière avec l'État hébreu. Danny Danon, l'ambassadeur israélien auprès des Nations Unies, a écrit au secrétaire général Antonio Guterres et au Conseil de sécurité pour les avertir de ce qu'ils considèrent comme un dangereux effort des leaders palestiniens pour provoquer le conflit en orchestrant une série de confrontations de masse. Les services secrets d'Ankara ont rapatrié en Turquie 6 partisans présumés d'un prédicateur opposé au président Recep Tayyip Erdogan qui avait été arrêté au Kosovo. Les 6 hommes, présentés comme des adeptes de Fethullah Gulen, ont été ramenés en Turquie à bord d'un avion privé après avoir été interpellés lors d'une opération conjointe entre les services turcs et kosovars. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à présent, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Claire Morin-Jubourg.
Le Gabon, pays d'Afrique centrale, producteur de pétrole, frappé par la chute du baril depuis 2014. Ce pays prévoit plus de flexibilité dans ce secteur avec un nouveau code des hydrocarbures qui pourrait être présenté en juin. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités gabonaises. Le dernier code gabonais date de 2014 et figure parmi les moins avantageux d'Afrique pour les entreprises. Et ce, selon plusieurs pétroliers et experts du secteur qui ont subi la chute du prix du baril, passé de 100 dollars en 2014 à 60 dollars aujourd'hui. L'État ivoirien a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix du kilogramme de fèves de cacao à 700 francs CFA pour la campagne intermédiaire 2017-2018. Malgré l'embellie des cours internationaux ces derniers mois, le gouvernement n'a pas jugé utile de procéder à une augmentation du prix, synonyme d'une hausse des revenus pour les producteurs. L'Éthiopie a attiré 2,2 milliards d'investissements directs étrangers au cours du premier semestre de l'année budgétaire en cours. Selon la Commission éthiopienne des investissements, les secteurs d'activité qui ont le plus bénéficié de ces investissements sont principalement les industries manufacturières et les productions orientées vers l'exportation.
Présent la page des sports avec vous, Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir, Abdourahman.
On démarre par du football. Sébastien Minier a quitté son poste de sélectionneur du Congo.
Tout à fait, Abdourahman. L'ancien adjoint de Claude Leroy a résilié son contrat d'un commun accord avec la Fédération congolaise de football. Une rupture de contrat qui intervient au lendemain de la victoire des Diables Rouges contre la Guinée-Bissau en amical 2-0. Sébastien Minier dit être fatigué du manque d'organisation. Dernier épisode en date, on se rappelle encore, le stage à Paris la semaine dernière avec l'annulation dans un premier temps du match contre la Guinée-Bissau. Le coup de gueule de Thierry Bifouma qui a quitté ses coéquipiers en plein stage pour dénoncer les conditions d'organisation. Sébastien Minier avait pris les rênes des Diables Rouges en mars 2018.
Au Gabon voisin, les élections à la Fédération de football ont été reportées.
Oui, Abdourahmane, elles avaient été initialement prévues pour le 31 mars, les élections à la FEGAFOOT auront finalement lieu le 21 avril. Pas de changement parmi les candidats déclarés. 5 sont en lice, dont le sortant Pierre-Alain Mugengi. Les autres prétendants sont Blanchard Andoum, Jérôme Effong Nzolo, Basco Alaba Fall et Placide Xavier Bourdette. La campagne électorale s'ouvre le 3 avril et se referme le 20, puis place aux élections le 21 avril à Lambaréné.
La passion du foot, souvent poussée à l'extrême en Grèce, le patron du PAOK a été interdit de stade.
Une peine d'interdiction de stade de 3 ans pour Ivan Savidis, le patron du PAOK Salonique. La Ligue des clubs de football grec a également infligé une amende de 100 000 euros au président du club, tandis que le PAOK perd 3 points au classement, ce qui le rétrograde en 3e position du championnat de première division. Le club devra en outre payer une amende de 63 000 euros, mais dans la foulée, il a dit qu'il fera appel de ses décisions, de ses sanctions donc. Pour rappel, Ivan Savidis a fait irruption une arme à la ceinture sur la pelouse le 11 mars lors d'un match face à l'AEK pour protester contre une décision arbitrale. Le championnat a été suspendu depuis lors. Il reprendra finalement ce week-end.
Yacouba Ouedraogo, merci beaucoup.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Abdourahman Dia, en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et on passe au dossier du jour. Au Niger, la justice a ordonné la réouverture de la télé privée Labari, fermée dimanche après une manifestation interdite. Quatre leaders de la société civile sont actuellement placés sous mandat de dépôt. Irénée Hermanoumbo a joint leur avocat, Maître Boudal Efred Mouloud. Voilà, donc on va écouter Maître Boudal Efred Mouloud que Hermanoumbo a joint à Niamey dans un instant, je vous le disais. Il s'agit donc de la justice qui a ordonné la réouverture de la télé privée Labari qui a été fermée dimanche. On écoute.
Et on les accuse d'organisation et participation à une manifestation interdite, complicité de violences, voies de fait et dégradation des biens publics, et pour avoir provoqué une manifestation par des écrits, affiches et autres.
Des accusations que vous reconnaissez, c'est ça?
Non, mais exactement, j'allais vous dire qu'on leur reproche ce qu'ils n'ont exactement pas fait, parce que je vous fais remarquer que... Toutes ces quatre personnes ont quelque chose de commun, c'est qu'elles ont été arrêtées à leur service.
La manifestation avait été interdite, mais ils ont bravé l'interdiction. Il fallait quand même s'attendre à des sanctions, non?
Moi, je vous fais remarquer que l'un des acteurs a été arrêté le 25 à 11h du matin. À 11h du matin, il n'y avait pas de manifestation. Il était au niveau du locaux de Alternative Espace Citoyen, devant son bureau. Il a été arrêté. Il était parti rentrer. Il pensait et il continue de croire qu'il a été arrêté parce qu'on a reçu l'ordre qu'il ne rentre pas dans son bureau. Et les autres acteurs ont été en grande majorité arrêtés alors qu'ils étaient en concertation. Donc, ils n'étaient pas des manifestants. Il n'y a pas des infractions par anticipation. Ceux qui voulaient les arrêter auraient dû et surtout pu attendre qu'ils portent des actes. Mais on ne peut pas prévoir des infractions.
Alors que risquent-ils maintenant, puisqu'ils sont détenus dans les geôles de la prison nigérienne?
Oui, ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt. Le plus proche d'entre eux est à 5 km de la capitale. Donc la justice a décidé de les séparer, de ne pas les mettre, c'est souverain, de ne pas les mettre dans un seul camp de détention. Donc l'un est à Wallam, l'autre à Filingué, l'un à Tillabéri et un autre à Dakana. C'est à 100 et quelques kilomètres de Niamey avec des voies difficiles. Et c'est difficile même pour nous, leur conseil, d'avoir des contacts permanents avec eux, ce qui est nécessaire. Leur famille, on n'en parle même pas. Je vous fais remarquer que c'est ça notre surprise. Mais bon, on ne peut pas présager de l'intention de ceux qui ont décidé de le faire. Nous respectons la justice.
Vous êtes l'avocat de la radio-télévision La Baria. Est-ce que l'organe a repris ses programmes?
Hier, nous avons saisi le juge de référé. Le juge de référé a ordonné, a constaté d'abord et dit qu'un trouble manifestement illicite. Il a ordonné que les forces de l'ordre qui étaient stationnées quittent et laissent le personnel de la radio-télévision La Baria accéder à leurs locaux. Au moment où je vous parle, jusque-là, c'est le statu quo. L'État du Niger ne s'est pas exécuté.
C'était Maître Boudal Efred Mouloud, joint à Niamey.
Vent de panique chez Facebook suite aux révélations d'utilisation de données de millions d'utilisateurs par la société Cambridge Analytica pour influencer la dernière élection présidentielle américaine. Et en Afrique, à quel point Facebook peut-il influencer les processus politiques? Peut-on faire confiance à la plateforme de Zuckerberg? Comment protéger ses données privées? Quel est l'avenir des réseaux sociaux sur le continent? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Girondin.
Au Cameroun, durcissement de position dans la crise anglophone. Des groupes armés agissant au nom de séparatistes anglophones multiplient des attaques contre les officiels camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Reportage à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
Un préfet blessé par balle, un responsable ministériel tué, un otage tunisien abattu par ses ravisseurs, une quarantaine de personnes enlevées, certaines relaxées. Ces actes sont attribués aux séparatistes anglophones dans les deux zones du pays. Pour le politiste Aristide Monod de l'Université de Yaoundé 2, la crise dite anglophone a changé de variable.
L'État central est en situation de reconquête de ses territoires. L'État camerounais a été déséquilibré. Nous sommes passés de la révolte civile à la résistance armée classique et asymétrique.
Pourtant, la nomination d'un anglophone, Paul Atangandi, le 2 mars dernier au prestigieux poste de ministre de l'administration territoriale, avait été présenté comme annonciateur de la CALMI. Avis partagé par ces deux Camerounais anglophones résidant à Bamenda.
Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun qu'une anglophone a pris cette poste-là. Avec ça, là, ça va résoudre tous les problèmes qui nous dérangeaient.
Le président Paul Biya a toujours pris soin des anglophones. La nomination de ce ministre de l'administration territoriale le témoigne et va régler la crise.
C'est quelques jours après la nomination de Paul Atangandi que les séparatistes ont porté de sérieux coups à la sécurité du pays. Une coïncidence des faits qui a valeur de message envoyé au président Paul Biya. Aristide Mono, politiste.
L'opération des enlèvements a été un moyen de prouver qu'en fait, ces dernières mesures sont loin d'être opérantes sur le terrain. Il s'agit d'un rejet global de toutes les dernières mesures prises par l'État central pour essayer de solutionner la crise anglophone.
Pour la première fois, certains groupes armés opérant en zone anglophone ont fait des demandes de rançon pour libérer les otages. L'État camerounais devrait donc vite agir pour briser la tendance à la radicalisation actuelle, pense Dr Nick Ngwangwa, homme politique et directeur de l'université Saint-Louis à Bamenda.
On doit vite rentrer à cette table de dialogue-là, un dialogue avec de respect. Parce que lorsqu'on parle dialogue, les autres disent on va dialoguer avec qui? Les séparatistes, mais il faut dialoguer avec tout le monde, parce que c'est tout le monde qui se sent laissé.
Pour la tenue des dernières élections sénatoriales, l'armée camerounaise a dû mobiliser les gros moyens pour assurer la sécurité des deux zones anglophones, Yaoundé, Emmanuel Jules-Ntap, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, ouverture d'une information judiciaire pour usurpation de nationalité contre l'opposant Moïse Katumbi. C'est le procureur général de la République, Flori Kabange Numbi, qui l'a annoncé hier. La RDC ne reconnaît pas la double nationalité, alors que de récentes informations font état de la nationalité italienne de l'opposant en exil. Pour une analyse, Eki Abadou a joint à New York l'avocate d'origine congolaise Bibi Moussafari et les spécialistes en droit d'immigration.
La double nationalité, en général, cela dépend de chaque pays. Il y a des pays qui ont des législations qui interdisent, donc c'est une prohibition. Et il y a des pays qui, tout simplement, ne donnent pas effet à la double nationalité. Donc, vous pourriez être congolais et si la législation ne dit pas que vous êtes complètement interdit de prendre une autre nationalité, vous pouvez la prendre, mais simplement, elle n'aura pas effet dans votre pays. Ça peut être le contraire où la législation dit que c'est prohibé. Ça veut dire que si vous êtes congolais et que vous prenez une autre nationalité, à ce moment-là, vous perdez la nationalité congolaise parce que le Congo n'accepte pas. La législation, tout simplement, ne permet pas. Ça veut dire qu'elle n'a pas prévu la double nationalité. Mais je ne pense pas qu'il y a une réelle prohibition.
Quels sont les risques pour M. Katumbi?
D'abord, il y a un article qui en fait dit qu'il a eu la nationalité pendant 17 ans, de 2000 à 2017. Ça veut dire qu'apparemment, il n'est plus italien à ce moment-ci. Si cela était dans le passé, ça ne devrait plus avoir de conséquences. L'article, en fait, voulait pouvoir faire savoir qu'en 2016, quand il se présentait comme candidat, il était encore sous la double nationalité. S'il était sous la double nationalité à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas se réinscrire pour, en fait, avoir un dossier totalement clair. En se présentant comme candidat maintenant, il n'a pas la double nationalité.
Il a derrière lui une condamnation dans l'affaire Stoupi et ça le rendrait inéligible.
La plupart du temps, les gens assument. Ils disent par exemple que si vous avez été condamné pour avoir fait telle affaire, est-ce que dans le dossier Stoupi, il a été condamné? Oui, mais est-ce que c'est un crime? Il faut savoir. Quelles sont effectivement les dispositions de cette affaire-là par rapport au juge qui a jugé. Vous pouvez être condamné, mais pas nécessairement un crime. Les crimes ont plusieurs degrés. De quel degré de crime ? La justice dite sur la place publique et la justice comme une profession légale est totalement différente. Et pour ça, il a plusieurs recours. Il doit pouvoir clarifier ce qui est juridiquement vrai et ce qui ne l'est pas. Quand il a des empêchements réels à se présenter comme aux élections, il a la possibilité de faire les recours nécessaires. Le cas Stupif, par exemple, peut-être qu'il peut faire appel, faire des appels jusqu'en cassation. Et que tant que ces appels ne sont pas épuisés, personne ne pourrait dire qu'il a été condamné, parce que l'appel n'est pas encore déterminé.
C'était l'avocate Bibi Moussafiri, jointe à New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Kim Jong-un, le leader nord-coréen, a effectué cette semaine sa première visite à l'étranger, en Chine notamment. Il doit, le mois prochain, participer à un sommet avec son homologue sud-coréen. Une autre rencontre historique est prévue au mois de mai avec le président américain Donald Trump. Et pour évoquer sa première sortie à Pékin, Idriss Fall a joint Alice Heckman, spécialiste de la Corée du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
C'est un coup diplomatique, c'est-à-dire c'est un gain diplomatique pour la Chine parce qu'elle coupe l'herbe sous le pied des États-Unis en organisant la première visite officielle à l'étranger de Kim Jong-un. Il ne faut pas sous-estimer les proximités à la fois stratégiques, bureaucratiques et idéologiques entre Pékin et Pyongyang. Certes, Pékin, au cours de l'année écoulée, était mécontent des essais, des tests balistiques et nucléaires répétés du voisin nord-coréen. Mais c'était une insatisfaction relative. Pékin a toujours été, en tout cas au cours des 5 dernières années, mécontent des exercices militaires conjoints conduits par les États-Unis avec ses alliés dans la région, en premier lieu la Corée du Sud. Pékin se plaint également des opérations de surveillance américaines à proximité de son territoire. Donc il faut bien prendre en compte le rapport de force dans la région. On s'achemine vers une rencontre Trump Kim Jong-un, qui portera bien sûr sur la dénucléarisation de la Corée du Nord et la péninsule coréenne, puisque c'est bien le sujet qui fâche, c'est bien le sujet au cœur des négociations. Mais quelles seront les conditions de cette négociation ? À mon avis, le camp des non-alliés, c'est-à-dire la Corée du Nord, mais aussi la Chine, qui vont essayer de négocier cette dénucléarisation.
Quand sera-t-il entre les deux Corées ? Ce sera la première fois que quand même Kim Jong-un va sortir et rencontrer son homologue sud-coréen.
Ce n'est pas la première fois dans l'histoire des deux Corées, hein, puisqu'il y a déjà eu des rencontres d'État qui n'ont pas donné lieu à une stabilisation de la péninsule, mais il y a déjà eu des rencontres. Bon, si, on va dire c'est inédit sous la période de Kim Jong-un, mais à mon avis, le rapport de force reste en présent. La Chine et la Corée du Nord ont une perception différente de la résolution des tensions de celle de la Corée du Sud et des États-Unis. Les points de clivage sont nombreux. Aujourd'hui, on assiste à une accélération des rencontres tous azimuts et accélération des négociations, accélération du calendrier. Mais il est très difficile aujourd'hui d'envisager une résolution imminente des tensions, en tout cas un accord entre les deux Corées, compte tenu des divergences existantes et en toile de fond de la rivalité forte existante entre la Chine et les États-Unis qui pèse sur la résolution de la crise. En tout cas, je pense que c'est cette rivalité qu'il faut prendre en compte lorsqu'on analyse aujourd'hui les rapports de force et le développement des négociations et des rencontres en cours.
C'était Alice Heckman, spécialiste de la Corée du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et c'est sur cet élément qu'on se quitte. Merci à Joselle Morizin qui l'a réalisé cette édition. À la console, Lenus Remkos, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Anjamena sur 93.1 FM.
Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.